Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Les biodéchets, de l'or dans nos poubelles. En France, nos poubelles sont constituées en moyenne d'un tiers de déchets organiques, c'est ce qu'on appelle des biodéchets. Les biodéchets, vous savez, ce sont toutes ces pelures de fruits et de légumes et autres fins de plats ou d'assiettes non terminées. En fait, tous ces déchets alimentaires que l'on ne consomme pas et qui finissent au rebut. Ces biodéchets, c'est pourtant de l'or, une matière richissime pour nos sols extrêmement appauvris, une matière qui en plus vient surcharger les quantités de déchets à traiter et qui, ça n'est plus à prouver, mérite vraiment d'être valorisée. Alors, à l'échelle individuelle, des personnes font leur compost et elles le rendent à leur jardin, ou quand il n'y a pas de jardin, elles le déposent dans un composteur collectif dédié. Malheureusement, on est loin, très loin, d'une généralisation du compostage. La loi prévoit qu'à partir du 1er janvier 2024, toute personne devra avoir accès à une solution pour pouvoir trier ses déchets alimentaires. Dans ce documentaire, on va s'intéresser à des initiatives qui existent déjà sur le territoire. On va voir comment elles s'organisent, quels sont leurs avantages, où elles en sont et à quel point il est important aussi que le compostage se généralise et que les différentes communautés de communes proposent des solutions pour tous les citoyens et citoyennes. Oui, allô? Oui, bonjour. Ah, ok. Ouais. C'était pour savoir où était le composteur, mais je crois que je l'ai trouvé. À tout à l'heure. Je suis sur l'écosite de Heure, à proximité du composteur. Donc devant moi, il y a trois bacs de compost. Il y a le bac de gauche sur lequel il y a écrit « réserve de matière sèche ». Il y a un deuxième bac qui est donc le bac d'apport, c'est celui du milieu. Entre parenthèses, bac d'apport en matière organique. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut mettre? Des épluchures, dont les agrumes, des fanes, des restes de légumes, fruits pourris ou cuits, marcs de café, thé avec filtre, coquilles d'œufs écrasées, plantes, fleurs coupées, essuie-tout, sac en papier déchiré. Et non, ce qu'on ne peut pas mettre, viande, poisson, coquillage, huile, litière d'animaux, poussière et sac d'aspirateur, gazon, fumier, cendres et sciure de bois, sac biodégradable. Et pour ce qui est du dernier bac, ça s'appelle bac de maturation, et il y a une petite photo avec du compost en tout cas qui a maturé. Et autour, on voit plein de petits insectes qui sont nommés gloméris, vers, cétoine, cloporte, larves de diptères, scarabées, lithobies et colamboles, qui sont les insectes qu'on peut trouver dans un compost. Il y a écrit « N'ajoutez rien dans ce bac, compost en cours de maturation ».
Blandine de Montmorillon travaille pour l'association Compost et Territoire, qui existe depuis 2016 en Drôme et en Ardèche. Et cette association vise à accompagner des projets de compostage citoyen et de proximité. Blandine est maître composteuse. Rencontre.
On est parti en vélo à deux. On s'appelait Compost L. Et on a comme ça pu voir toutes les communes, faire un petit diagnostic de ce qui était intéressant à installer. Les petites communes, par exemple, comme Suze. Il n'y avait pas d'habitat collectif, donc il n'y avait pas besoin de composteur collectif. Et à chaque fois, donc, on passait une journée dans la commune et on était invité par la mairie ou par l'école ou par les habitants. On faisait une petite activité, soit dans l'école, soit au marché. Et le soir, on repartait dans une autre commune et on n'avait pas prévu nos lieux de logement. Donc quelquefois, on avait des amis ou des gens qui nous accueillaient. Mais dans la semaine, on a eu trois fois où on a été logés par des conseillers municipaux, en fait. Et c'est comme ça qu'après, on a eu les premiers contrats avec la CCVD en 2017 pour installer les premiers composteurs, donc une dizaine de composteurs. Et après, il y a eu une deuxième série, encore une dizaine de composteurs, ce qui fait que maintenant, il y en a à peu près entre 20 et 25 qui ont été installés par Compost et Territoire.
Donc Compost et Territoire, sur ce territoire, a installé presque 30 composteurs. Il y a aussi des composteurs ailleurs sur d'autres territoires ?
Sur Cré et puis la 3CPS. Et puis après, en fait, on a un autre type de contrat avec un syndicat de traitement, le CIP, qui est dans le sud du département, le syndicat de Portes de Provence, où là, comme ils étaient en enfouissement, contrairement au notre syndicat de traitement d'ici, qui est le CITRAD, qui n'a pas le même système de traitement. Quand on est en enfouissement, comme le prix de l'enfouissement va augmenter, est en train d'augmenter énormément, ce syndicat de traitement, le CIP, a du coup réfléchi à une solution alternative et ils se sont lancés sur le compostage collectif. Puisque le compostage, ça enlève 30% de nos poubelles, donc question... C'est un calcul même simplement financier. Et du coup, ils installent énormément de composteurs collectifs. Et c'est mon collègue Julien, de Composter Territoire, qui les installe, qui fait des formations. Et qui fait des formations guide composteur. Donc c'est une bonne formation. L'intérêt étant d'avoir sur chaque commune des personnes un petit peu formées pour pouvoir enseigner leurs voisins, la commune. Donc c'est intéressant d'avoir cette formation.
Parce que oui, il y a plusieurs niveaux hein, de personnes qui peuvent former ou en tout cas sensibiliser et aussi s'occuper de ce compost. Il y a les maîtres composteurs, les guides composteurs. Et les référents de sites.
Voilà. Alors en allant du plus simple au plus compliqué, le premier c'est référent de site, donc c'est bénévole qui va s'occuper du composteur collectif, c'est-à-dire le suivre, toujours en lien avec une personne de la collectivité évidemment. Hein. Et le référent de site, il a une formation d'une journée. Ensuite, ce référent de site sur sa commune, ben, il va s'occuper du composteur, il va faire le lien aussi avec les habitants. Après, l'autre formation un peu plus longue, c'est guide composteur. Il y a 3 ou 4 jours selon les spécialités. Par exemple, lombricompostage, compostage dans le jardin, avec les déchets verts, toilettes sèches. Maintenant, il y a gaspillage alimentaire aussi. Donc, c'est des formations un peu plus longues. Et pour nous, ça, c'est intéressant parce que c'est des vrais ambassadeurs du compostage. Et ce qu'on aimerait, c'est d'avoir un guide composteur par commune pour qu'ensuite, on ait tout le temps ce relais. Et la dernière formation, c'est maître composteur. Une formation qui est professionnelle et qui est faite pour avoir les pilotes des opérations. Et justement, on a le référent de site.
Ah, bonjour référent de site.
Bonjour Olivier, moi je suis référent sur ce composteur-là. La chance vraiment d'avoir une équipe assez dynamique sur la gestion de ce site. Et puis je gère un autre site sur Livron. Pareil, on est 2 à 3 personnes à régulièrement venir s'occuper, brasser, retourner, vérifier que tout a bien et que tout soit bien posé dedans. C'est un peu une occupation, on va dire, hebdomadaire. Puis un peu tous les jours pour vérifier qu'il n'y ait pas d'apports qui n'ont rien à faire dedans, quoi. Voilà.
Et qui c'est qui fournit la matière sèche ?
Le site ici il est alimenté par les broyats de végétaux gérés par l'intercommunalité. Et puis sur une commune par exemple comme Livron, moi je suis référent, sont les services techniques là de la commune à qui nous référents faisons appel lorsqu'il manque de l'apport. Et ils sont très réactifs sur l'apport de matière sèche. Ouais.
Et globalement, c'est les collectivités qui fournissent les matières sèches.
Au départ, dans la charte, c'est la communauté de communes. Mais effectivement, écologiquement, c'est quand même plus cohérent que ce soit la commune. Parce que si on veut aller à Beaufort, par exemple, c'est plus intéressant d'avoir la commune qui a une réserve de broyat. Et puis, il y a aussi l'aspect sensibilisation. Parce que ce broyat, il peut servir sur tous les espaces verts de la commune. Et quelquefois, les employés d'espaces verts, ils n'ont pas cette formation ou ce réflexe de pailler les espaces verts. Et du fait d'avoir cette réserve pour les composteur, ça fait aussi une réserve de matière sèche pour le reste de la commune. Et ça, c'est ce qu'on aimerait bien obtenir un peu partout, parce qu'on voit que maintenant, en cas de sécheresse, de canicule, on a absolument besoin de pailler beaucoup plus tous les espaces verts, en fait. Les jardins, mais aussi tous les espaces verts des communes. Et ça, il faudrait que ce soit généralisé.
Je vais même dire ici, par exemple, sur le site sur lequel on est, pour revenir à nos composteurs, lorsque ce compost n'est pas pris au bout d'un certain temps par les gens à qui on le met à disposition, eh bien ce tas, on ne va pas le laisser trop longtemps. Donc au bout d'un moment, il est repris également par les équipes et il est dispersé sur les espaces verts
ça,
du
c'est
parc.
L'idéal. Ouais.
Est-ce que vous avez des chiffres, un peu une idée de combien de kilos, de tonnes de matière organique sont compostées chaque année sur, peut-être sur ce site ou en moyenne sur les sites de compostage ?
En moyenne, sur un site, la moyenne, je pense que c'est autour de 1 à 2 tonnes. Ça peut aller jusqu'à 10 tonnes, le composteur de l'Envario à Cré. Après, les petits composteurs qui n'ont pas beaucoup d'habitants, en fait, ça ne se remplit pas vite, mais au moins, ça c'est pas dans la poubelle. Et puis, on a quand même du compost à la fin, quoi. Donc, c'est proportionnel, normalement, au nombre d'habitants. Ce n'est pas toujours le cas, parce que les habitants ne sont pas toujours sensibilisés. C'est le cas à Livron, où on a beaucoup d'habitants. Il y a plein de quartiers où les gens ne sont pas sensibilisés. Et en fait, on a 2 méthodes. Soit on installe le composteur et on sensibilise les gens après, Soit on sensibilise avant, alors ça, il faut vraiment une grosse opération de la part de la communauté de communes et en lien avec la commune, donc service communication et tout ça. Et une fois qu'on a un certain nombre de personnes, on installe le composteur. Mais de toute façon, on installe un composteur que quand on a un référent, deux référents sur le site.
Alors Blandine, vous avez ouvert deux bacs là.
Le bac d'apport, il est quasiment vide puisque ça vient d'être retourné. Il n'y a pas d'intrus, c'est très bien. Il y a des mouchoirs en papier, ce qui veut dire que les gens ont compris qu'on pouvait aussi mettre des choses sèches, les mouchoirs, sopalin, tout ça. Et je regardais la qualité du broyat, qui est très bien, parce qu'il n'est pas trop gros, en fait. Quand on a des trop gros morceaux de bois, ça ne se dégrade pas bien. Et le broyat, il a un rôle de structurant. Il faut qu'il fasse de l'aération aussi. Donc cette taille-là, c'est des petites brindilles, vous voyez, avec quelques petits morceaux qui sont pas plus gros qu'un doigt, en fait. Hein, et ça va très bien, c'est super.
Le composteur est un lieu de rencontre. Et généralement, c'est un lieu aussi où, à côté des composteurs, on met en place des systèmes d'affichage, des rappels de ce qu'il faut mettre et ne pas mettre, et puis des rappels sur justement les dates à laquelle les retournements sont prévus, par exemple, les rencontres sont prévues. On est sur un parc d'activités, certes, mais déjà c'est un nombre important de gens qui mangent ici le midi, donc qui apportent. C'est-à-dire que c'est une quantité non négligeable. Et en plus, le système de restauration maintenant de la gare à coulisses fait qu'il y a un apport important et qu'on est quasiment sur un retournement deux fois par an, ici sur le site.
Par contre, quand on a un composteur de quartier, on sait très bien que les habitants ne sont pas tous sensibilisés en même temps. Il y a des gens qui sont réfractaires déjà, qui sont plus difficiles à sensibiliser. Et c'est cela qu'il faut aller toucher, et c'est pour ça que les référents de site sont intéressants. Quand c'est par exemple un habitant d'un HLM, il peut aller dans tous les étages, et il connaît ses voisins. Si c'est leur voisin qui leur en parle, les gens ne vont pas avoir la même attitude que si c'est la collectivité qui leur met un papier. C'est pas du tout pareil, quoi. C'est ça l'intérêt aussi du compostage citoyen. Mais faire du compost, c'est aussi faire une super matière, un amendement qui est génial pour le sol. Et les sols, ben, on est en train d'en parler quand même un petit peu plus qu'avant. Nos sols sont très très stérilisés en France, très pollués, très dénaturés. On a absolument besoin de les refertiliser, de leur remettre de la matière organique. Du coup, c'est vraiment un double intérêt. C'est vider nos poubelles, faire des économies et renaturer nos sols. Et en cas de sécheresse, il y a aussi le lien entre le sol et la sécheresse. Le sol, c'est une vraie éponge. Et donc un sol bien, bien organique, bien plein de compost, c'est vraiment un signe de qualité et qui peut nous aider à lutter contre la sécheresse.
J'aimerais parler de la réglementation qui va changer, de la loi qui va changer. On est à moins de 6 mois de janvier 2024. Est-ce que vous savez si les collectivités se sont déjà saisies de la problématique ? On en est où sur le territoire de la vallée de la Drôme ?
Sur la Biovallée et la vallée de la Drôme, là, on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui va se passer. On peut espérer que le compostage collectif va continuer, puisque la CCVD, ça a été mis en place. La 3CPS, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et en fait, il y a deux solutions pour répondre à l'obligation de 2024, hein, puisque c'est obligation du tri à la source, c'est-à-dire avant la poubelle. C'est soit les composteurs collectifs, avec les composteurs individuels pour les gens qui ont un jardin. Donc tout ça, ça demande beaucoup de préparation, de communication et d'installation. Ce qui, à la fin, c'est quand même le système le plus économique, puisque c'est quand même les habitants qui participent tous un petit peu. Et puis le deuxième système, c'est la collecte. Nous, ce qu'on craint, c'est que les collectivités qui ne se sont pas mises en marche au 31 décembre, on sait très bien que le 1er janvier, de toute façon, on ne sera pas prêt, hein, ça c'est sûr, mais celles qui n'auront rien fait ou qui ne sauront pas comment faire, elles risquent de prendre une solution clé en main, où on prend un prestataire, il vous fait le travail. Pour nous, c'est dommage, parce que d'abord, ça va coûter beaucoup plus cher à tout le monde. Et puis, ce n'est pas une méthode de sensibilisation écologique citoyenne, en fait.
Ok, donc l'échéance approche et c'est le mystère un petit peu jusque-là.
Pas complètement, parce qu'en fait, on est avec un syndicat de traitement, le CITRAD, qui fait déjà du compostage après la poubelle, c'est-à-dire qui prend la partie fermentée cible et qui fait du compost dans l'usine de valorisation organique d'étoiles. Du coup, ce compost, ce n'est pas du compost vivant comme celui qu'on fait dans les composteurs collectifs, mais ils font déjà du compost. Alors par contre, ce ne sera pas du tri à la source, puisque c'est après la poubelle et pas avant. Mais il y aura une dérogation pour que ces usines continuent à fonctionner. Et donc, toutes les collectivités qui sont avec le CITRAD peuvent se dire ben, c'est moins grave pour nous de ne pas répondre à l'obligation de la loi, puisqu'on peut continuer, en fait. Pour nous, c'est dommage, parce que cette obligation, c'est une obligation peut-être, mais c'est aussi un coup de pouce pour tout ce qui est activité citoyenne. Quand on y référant, on est citoyen, ok, mais on va rayonner avec notre voisinage sur plein d'autres sujets. Déjà l'alimentation, puisqu'on va discuter sur les épluchures et sur qu'est-ce qu'on mange. Puis après, il y aura tous les autres sujets qui suivent, parce qu'on va discuter entre référents, entre personnes qui se rencontrent. Et tous ces sujets, ils sont liés en fait. Le transport, la mobilité, après ça peut être le tourisme, ça peut être plein de choses. Et pour nous, le compostage, c'est un petit déclic d'amorçage. Et c'est quelque chose qui met aussi en route les citoyens.
Alors, pour Blandine de Montmorillon, de Compost et Territoires, faire son compost au-delà de la démarche écologique, ce serait aussi une démarche citoyenne impliquante pour les habitantes et les habitants. Mais qu'en est-il pour les structures qui cuisinent, ces structures dont la quantité de biodéchets est telle qu'elle peut venir vraiment saturer des composteurs collectifs ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le territoire ? Comme Compost et Territoires, l'association Colambol cherche à détourner les biodéchets des ordures ménagères. Elle a été créée en 2022 à Cré et elle sillonne depuis maintenant une année les ruelles de la commune de Cré et même un peu au-delà.
Mais voilà, l'ancien hôpital, c'est lundi, c'est 9h30-10h et il y a Flore qui arrive en vélo. Elle est bien chargée et ça monte à Cré. Ça monte.
Je peux pas m'arrêter dans la montée.
Vous avez peut-être déjà croisé un vélo électrique qui tractait une remorque pleine de poubelles et qui faisait des haltes régulièrement. Vous avez peut-être rencontré à son bord Flore Bazin ou quelqu'un d'autre. En tout cas, Flore, elle est à l'origine du projet et je la rencontre un matin, à Cré, au début de sa tournée de collecte de biodéchets.
Voilà, donc là, on est un peu dans le pôle livraison logistique de l'hôpital. Et on vient trois fois par semaine pour collecter les déchets alimentaires. Donc il y a plein de services différents qui font tous le tri. Et ensuite, tout est centralisé dans le local poubelle ici. Donc nous, on passe que ici. Sinon, il faudrait qu'on parcourt tous les EHPAD et tous les différents services, la cantine, la cuisine. Voilà, ils se sont organisés pour faire toute la pré-collecte. Enfin, ça a été une longue mise en place. Et maintenant, ça tourne super bien. Donc là, j'ai des bacs propres sur la remorque. Je vais enlever tous les bacs propres pour les amener dans le local poubelle et reprendre des bacs pleins. De travailler avec des bacs roulants comme ça pour éviter d'avoir à porter la charge. Là, on va collecter quasiment 150 kg ce matin ici. Donc si on était en petit bac à porter à la main, on finit par porter une tonne à la fin de la journée. Donc là, il y a les retours d'assiettes d'une maison de retraite. Tous les agents qui s'occupent du débarrassage mettent de côté, font le tri au moment du débarrassage. Il y a vraiment une bonne qualité de tri, on est super contents. Parce que nous, on retrie tout à la main, s'il y a des petits plastiques, des petites dosettes individuelles, des pots de yaourt, tout ça. Et ça peut vite être chronophage, voire carrément désagréable. Et on est super contents parce que les différentes équipes des différents EHPAD font un super tri. Et là, c'est pareil, ça c'est le retour d'assiette d'une autre maison de retraite, d'un service Alzheimer. Voilà. Eux, ils sont loin, ils sont dans le centre-ville et ils n'ont pas de local réfrigéré. Du coup, en été, c'était compliqué. Donc, on a trouvé un système de rotation avec un bac par jour. Enfin, on a adapté le système pour la saison, quoi. En été, on est obligé de rapprocher les fréquences de collecte, de changer un peu les méthodes, parce que sinon, on a vite des invités. Les fameux asticots. Donc là, je pense qu'on a chargé 150 bons kilos. Et c'était le premier point de collecte. Je pense qu'on va finir à 250 à peu près ce matin.
C'est quoi les autres points de collecte ?
Eh ben, il y a des restaurants, il y a le foyer restaurant aussi de la ville de Cré. Enfin, y a plein de points d'arrêt.
Donc une heure et demie en vélo et il y a aussi la collecte, tu me disais, en voiture, Livron, L'Oriol.
Et Gran. Et Alex. On fait un point d'arrêt dans chaque ville. C'est en train de se développer petit à petit. On va commencer d'autres établissements bientôt. Puis à terme, est-ce qu'on aura une petite plateforme à Livron, L'Oriol aussi pour faire moins de route et... ou au moins un hangar pour pouvoir tout massifier et faire les collectes à vélo localement. C'est pour 2024. Il y a un vélo électrique qu'on appelle le tracteur, le vélo tracteur. Le but, c'est que ce soit un vélo qui est pas mal quand il tracte fort. Et attelé à ça, il y a une remorque Carla, la Rolls-Royce de la remorque, On s'est offert le luxe d'avoir une des meilleures remorques du marché pour la vélogistique de charge lourde. Elle est aménagée pour pouvoir transporter des bacs roulants facilement, sans avoir à tout sangler. Et ça marche hyper bien. Et on arrive à charger des quantités importantes de déchets avec. On l'a bien optimisé, on l'a aménagé avec une petite pelle balayette s'il y a jamais des débordements, des petites raclettes pour transvaser les bacs proprement, une petite bâche pour communiquer, des sangles, des petits pots pour les erreurs de tri, une balance pour pouvoir peser chacun des restaurateurs. Quand on a 250 kg derrière, on peut vraiment avoir des très très belles frayeurs. Quand on freine et que la remorque freine pas derrière, on se fait chasser en fait. Et là, je me suis jamais fait chasser. Elle est auto-freinée, elle est motorisée pour les démarrages, pour les arrêts. Et je me sens vraiment en sécurité avec. Il y a des moments bien spécifiques où on se mange des énormes plans galères. Ça, je le cache pas. Mais une fois qu'on les connaît, ces plans galères, ce demi-tour-là, cette borne-là, on n'y retourne plus. Et il y a vraiment moyen de faire des collectes super fluides, sans forcer, sans se faire mal, de manière vraiment agréable. Moi, j'ai fait pas mal de collectes chez d'autres cyclo-composteurs dans d'autres villes avant. Et franchement, c'était pas vraiment le cas. Donc, je suis vraiment contente de cet attelage-là, quoi. On a fêté les 1 an de Colombol en faisant un gros retournement d'andin à la fourche en avril dernier. Et ben un andin, c'est un énorme tas de compost. On fait des tas qui sont en ligne, tout en longueur, qui font 10 à 15 mètres de long et 1,50 m à 2 mètres de haut, dans lesquels on vient mélanger tous les déchets alimentaires qu'on collecte et du déchet vert broyé, qui proviennent des déchetteries en fait. Et ça permet d'avoir un compost qui a un bon équilibre. Et l'andin, en fait, c'est la forme du tas. Donc on fait des retournements de l'andin régulièrement. Et ça, jusqu'à maintenant, on le faisait à la fourche. Donc on se rassemblait, tous les bénévoles de l'asso, on se faisait un apéro, on s'y mettait à 10 ou 15. Et là, depuis peu, on a acquis un tracteur qui nous simplifie beaucoup la vie parce que là, on composte quasiment 1 tonne par semaine. On composte parfois même 1,2 tonnes, 1,3 tonnes. Et franchement, à la fourche, c'est costaud, quoi. C'est vraiment costaud. Donc, on est content d'avoir un tracteur pour pouvoir nous soulager au moins les bras et les abdos sur cette partie-là. Et pour pouvoir aller plus vite aussi, quoi.
Et vous en faites quoi du compost une fois qu'il est mûr ?
C'est très demandé, en fait. Il y a des besoins énormes en compost dans la vallée. Du coup, on a fait le choix de le revendre à des maraîchers, à un prix qu'on déterminera ensemble avec des maraîchers qui ont fait des précommandes. Le but, c'est de soutenir l'agriculture locale pour produire des légumes qui vont de nouveau nous nourrir et de boucler la boucle. Il y aura une petite partie qui sera distribuée à nos partenaires et une petite partie qui sera distribuée aux jardins familiaux aussi, qui nous accueillent gratuitement sur la plateforme de compostage. Il y a quelqu'un ? Du coup, je pense que ça va faire quasiment 28 litres jours.
Ah, ça va vite, hein ?
Ouais. Là, surtout si elle la laitue et tout, ça prend de la place.
Ouais.
Après, dans les gros bacs comme ça, ça tasse un peu.
Tu le montes là-dessus, là ?
T'inquiète, j'ai la technique. On le porte pas.
On le porte pas ?
Ah, non, non. Ah, moi, je porte rien. Je vais mettre une sangle. Hein.
Ouais, j'imagine.
C'est trop bien. Ouais. Là, il reste Flora, la petite adresse, la salène, et on est bon.
Bonjour.
Bonjour. Comment tu t'appelles ?
Flora.
Comment ça se passe avec Colombol ?
Pour nous, il passe 2 fois par semaine, et il récupère tous nos déchets alimentaires compostables.
Qu'est-ce que ça implique pour vous ?
L'avantage, c'est que nos poubelles normales sentent moins mauvais. Et puis que juste faut faire attention à trier, mais bon, c'est pas trop compliqué en fait.
Donc c'est plutôt agréable.
Ouais, tout à fait.
Salut, à vendredi.
Combien de kilos ?
12 et 5, 17. Ouais. Avec le poids des bacs, donc faut enlever 4 kilos de bacs à peu près. On fournit les bacs. Ça fait partie des gros investissements aussi, la remorque, le vélo, les bacs. Le matos, la bâche, les karchers pour le compostage. Du coup, il y a des banques qui nous ont suivis. Il y a Initiative qui nous a fait un prêt à taux zéro. Et après, il y a des apporteurs qui ont prêté de l'argent à l'asso et qu'on remboursera dans 5 ans. Et voilà. Les restaurateurs et les établissements qui mettent en place le tri des biodéchets, ils participent aux frais de la collecte. Pour tous les restaurateurs du centre-ville, il y a un cofinancement de la 3CPS. Et le but, c'est que tous les collecteurs composteurs soient salariés, que Colombol soit à l'équilibre et pérenne dans le temps. L'asso, elle a fait des investissements et donc le but, c'est que la collecte permette de rémunérer ça et de pouvoir faire que c'est un service qui est pérenne dans le temps, quoi, et qu'on ne dépende pas que des subventions.
Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? D'où tu viens ?
Ah, moi, je viens d'un centre d'enfouissement, des ordures ménagères. Avant de bosser dans un centre d'enfouissement, je bossais dans la méthanisation, mais on bossait avec la matière organique, quoi. Ouais, ça me rendait dingue. La dichotomie d'enfouir 150 tonnes tous les jours de matière organique, alors que de l'autre côté, on en a juste tellement besoin. Et qu'on galère à l'acheter, on l'achète à prix d'or. C'était pas confortable. Un centre d'enfouissement, c'est nécessaire. Hein. Moi, je critique pas du tout l'enfouissement et on aura toujours besoin de centre d'enfouissement. Quelle que soit l'activité qu'on fasse, et tout ne se recycle pas, il y a toujours un reste. Par contre, ce que je critique, c'est qu'on y mette de la matière dont on a besoin aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans la réalité économique et environnementale. Et en plus, c'était des déchets, franchement, c'était l'enfer à gérer. S'il y avait moins de matière organique dans les poubelles, c'est vrai qu'on en baverait moins quand même. Ça n'a aucun sens de mettre ça dans la poubelle, vraiment. Quand on vit la réalité d'un centre d'enfouissement, ça prend de la place pour rien.
On arrive au bout d'une partie de la tournée pour moi. Je vais te laisser continuer, Flore. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Tu me parlais déjà du slogan de Colombol.
Ah oui, le mot de la fin, c'est que nos déchets alimentaires n'ont rien à faire dans la poubelle et que Colombol se mobilise pour les aider à s'en sortir. Et on vous invite à en faire de même. Et maintenant, direction la plateforme de compostage pour aller composter ces quelques 200 kilos qu'on a sur la remorque. C'est parti !
Si, comme le disait Flore Bazin de l'association Colombol, la quasi-totalité du compost mûr sera revendu à des maraîchers, c'est que ça n'est pas si simple à l'échelle d'une exploitation agricole de faire son propre compost. Le FIBEL France, Institut de recherche pour le développement de l'agriculture biologique, travaille sur un projet de recherche appliqué depuis quelques mois qui s'appelle Compost et résilience. Ses objectifs ? Accompagner les dynamiques de compostage mises en place sur le territoire de la communauté de communes du Val de Drôme et proposer de gagner en connaissance sur l'utilisation du compost dans le système agricole. On écoute Tanguy Balanan, ingénieur de recherche au FIBEL France.
Ce projet-là, il a démarré à la suite d'une journée technique qu'on avait fait en 2021 autour de l'utilisation des composts et des effets suppressifs des composts. Donc c'est en fait l'utilisation du compost pour lutter contre des pathogènes ou des bioagresseurs du sol. Et le retour qu'on avait, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de questionnements de la part des agriculteurs et agricultrices sur la production de compost, sur l'optimisation de ce processus-là et sur la revalorisation des matières. Et puis en creusant un peu plus sur ces questions-là, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des gisements de matières qui n'étaient pas forcément bien valorisés ou du moins qu'on pouvait faire mieux à l'échelle du territoire, typiquement les pailles de lavande. Donc là, sur la partie compostage à la ferme, on est vraiment entre un projet de recherche appliquée et un projet d'accompagnement, dans le sens où on essaye de répondre à des questionnements particuliers des agriculteurs et agricultrices à travers des expérimentations sur leur ferme. Mais l'idée, c'est aussi de les guider et de leur fournir toutes les clés qui sont déjà connues sur le compostage, quoi.
Et jusque-là, qu'est-ce qu'ils font des déchets, les agricultrices et agriculteurs qui ne compostent pas ? Ils vont où, les déchets ?
C'est assez variable. Il y a toute une partie de ces coproduits, on va plutôt parler de coproduits que de déchets, qui sont utilisés en brut. Par exemple, les fientes de volaille, en général, c'est des produits qui sont préférablement utilisés en brut. Il y a de la question des coproduits viticoles, où là, c'est une organisation plutôt par filière qui induit que les agriculteurs et agricultrices n'ont pas forcément la possibilité de récupérer les coproduits, par exemple les drâches, la filière viticole. Et après, qu'est-ce qu'ils en font ? Les pailles de lavande, c'est mieux valorisé aujourd'hui. Il y a eu toute une période où ces pailles de lavande étaient soit utilisées directement en distillerie pour chauffer les bacs de distillation, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, et du coup ça a été aussi brûlé ou du moins laissé en bout de champ pendant toute une période. Là, ça a quand même mis une prise de conscience aussi autour de la revalorisation de ces matières-là. En général, ils essayent de valoriser au mieux, hein. Ça reste quand même des matières qui sont importantes, Après, c'est composté un peu comme ils peuvent souvent. Ce qu'ils arrivent à faire, dans la mesure où c'est souvent pas un atelier à part entière sur les fermes, c'est quand même plutôt quelque chose qui est... C'est difficile d'y accorder du temps, du moins. Il y a déjà tellement de choses à faire sur les fermes que c'est souvent quelque chose qui passe après. Donc là, on a eu un échantillon d'environ 25 agriculteurs et agricultrices qui pratiquent ou non le compostage. Et l'idée, c'était de mieux comprendre déjà les volontés d'utilisation de compost ou non. Donc quels sont les moteurs à l'utilisation de compost et à la production de compost sur les fermes. Et quels sont tous les points qui peuvent être limitants au développement de cette pratique. Donc l'idée, c'était un peu d'avoir une cartographie à l'échelle du territoire, des besoins, des pratiques actuelles et puis des freins éventuels pour derrière pouvoir travailler sur différentes questions, qu'elles soient techniques. Donc ça, c'est un peu notre cœur de métier, mais ça peut être aussi des questions plutôt matérielles. On est en lien assez fort avec la CCVD aussi pour réorganiser des problématiques organisationnelles. Aujourd'hui, la CCVD y met à disposition du broyat de déchets verts, par exemple, à certains agriculteurs. L'idée, c'est de se dire comment on peut améliorer ça, comment on peut améliorer le processus de compostage, déjà en amont, à travers les matières premières qu'eux mettent à disposition aux agriculteurs. Et puis, ça peut être aussi faire remonter des problématiques législatives, par exemple. Au sein du FIBEL France, là, on est en train de construire des bacs de composteurs de laboratoire, on va dire. Donc ça a vocation à démultiplier les combinaisons de compost qu'on pourrait produire pour voir lesquels sont les plus pertinents ou non en termes de mix, donc de recettes de compostage entre guillemets. Et derrière, faire des essais en conditions contrôlées avec différents types de sols, etc. Donc ça permet de multiplier les combinaisons possibles. Et en parallèle de ça, il y a un travail d'accompagnement sur différentes fermes du territoire avec des problématiques assez ciblées. De compostage à la ferme, donc on va mettre en place là un essai qui va démarrer assez rapidement, c'est sur le compostage des pailles de lavande justement. L'idée, c'est d'amorcer des questions de co-compostage, donc de réintroduire du fumier par exemple sur du compostage de pailles de lavande, et aussi de travailler sur des questions de réincorporation de compost mûr en début de compostage pour réaccélérer le processus. Donc il y a ça, il y a des questions sur la gestion de l'eau au cours du processus de compostage. Et puis donc ça, c'est des missions qui vont se poursuivre sur différentes fermes du territoire pendant les 3 ans du projet. Donc l'idée, c'est d'accompagner au maximum et de faire aussi beaucoup de réunions de bout de champ avec un collectif d'agriculteurs et d'agricultrices. Et de réunir autour de ces questions-là sur des points spécifiques du compostage pour essayer d'apporter des réponses.
Les biodéchets, l'or de nos poubelles. C'est un documentaire réalisé par Héloïse Plantrou pour Radio Saint-Ferréol et l'émission Il est une vallée, diffusée également sur RDIWA et soutenue par l'association BioVallée. Mi-octobre 2023, soit près de 2 mois avant l'application de la loi sur le tri des biodéchets à la source, les communautés de communes de la vallée de la Drôme restent assez évasives, voire muettes, concernant la nature des solutions qu'elles comptent apporter. Tout ce que l'on sait et qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que des études ont été menées et que les communautés de communes sont en attente d'une validation politique. Suspense donc pour connaître les orientations à venir concernant le tri à la source des biodéchets. Merci à Blandine de Montmourillon de Compost et Territoires, merci également à Flore Bazin de Colambol, à Olivier, référent du site de compostage de l'écocide de Heure, et merci également à Tanguy Balanan du FIBEL France. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Saint-Ferréol, www.radiosaintfé.com.
Radio Saint-Ferréol et RDIWA présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.